on n'a pas mobilisé suffisamment de ressources pour réaliser l'agenda 2030. Et la lutte contre les flux financiers illicites rentre dans cette perspective de combler le gap qui existe pour le financement de l'agenda 2030. Les estimations, elles vont de centaines de milliards à des milliers de milliards. Tout dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de corruption? Est-ce qu'on parle d'évasion fiscale? Est-ce qu'on parle d'optimisation fiscale adaptée? Est-ce qu'on parle de blanchiment? Toutes ces différentes catégories ont des estimations de volume, mais les volumes sont considérables et ils peuvent atteindre des trillions de dollars.
Concrètement, qu'est-ce que ça comme impact, ces flux financiers illicites, sur le bien-être de la population?
Trois types d'impacts très simples. Le premier, c'est le crime organisé. De nombreuses études ont été faites entre le crime organisé et le terrorisme. Donc les flux financiers illicites alimentent le crime organisé ou proviennent du crime organisé et peuvent évidemment alimenter le terrorisme. Et on a plein d'exemples en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Le deuxième exemple, c'est que le fait de divertir ou de réallouer des ressources qui devraient aller vers des besoins sociaux à des questions de corruption, évidemment, a un impact considérable sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Troisièmement, comme nous sommes dans un monde qui est extrêmement connecté, la traçabilité de ces flux est difficile à identifier. Et à partir du moment où la traçabilité est difficile à identifier, vous ne pouvez pas imaginer le nombre considérable d'impact que ça peut avoir, que ce soit sur la nutrition, sur les infrastructures, sur la qualité du transport aérien.
Et à l'ère du numérique et des nouvelles technologies et d'une mondialisation de plus en plus accrue, est-ce que vous pensez que les gouvernements et l'ONU sont équipés des moyens, mais également de la volonté politique pour remédier à ces problèmes?
Il est de plus en plus manifeste que tous les gouvernements veulent lutter contre le crime organisé et les flux financiers illicites s'assimilent de plus en plus à ces questions qui vont à l'encontre de la morale. Mais au-delà d'aller à l'encontre de la morale, elles vont à l'encontre de l'efficacité économique. Rappelez-vous la crise financière 2008 et les efforts que ça a pris pour la résorber. Dans la crise financière 2008, il y a des aspects qui peuvent être considérés comme étant liés à des flux financiers illicites. Donc il est dans l'intérêt de chaque gouvernement aujourd'hui de lutter contre ces processus parce que, premièrement, ça lui permet de construire en interne des politiques sociales qui vont éviter des implosions. Et puis, deuxièmement, ça lui permet de profiter de plateformes internationales où il peut y avoir des échanges de pratiques. Et puis, on peut engager des mécanismes de coopération internationale de plus en plus efficaces. Donc je pense, un, la volonté politique est là. Deux, les intérêts peuvent, dans le détail des recommandations techniques, paraître être divergents, mais fondamentalement, il y a une volonté politique réelle.
Les impôts sur les sociétés, c'est 15% des recettes dans les pays en développement. C'est seulement 9% dans les pays développés. Est-ce dire qu'il y a des pays qui doivent faire plus d'efforts que d'autres?
Oui, non seulement certains pays doivent faire plus d'efforts que d'autres, mais il y a aussi la question de la capacité. Je vous donne un exemple. Moi, je viens d'un pays comme le Niger, qui est un pays minier. Si vous allez au ministère des Mines du Niger, vous n'aurez pas plus d'une dizaine de juristes spécialistes des contrats complexes. Alors, comment voulez-vous qu'avec une dizaine de juristes, des fois moins de 10 spécialistes des contrats complexes, on puisse négocier valablement avec des multinationales qui ont des centaines de spécialistes fiscaux? Donc, il y a aussi une question de capacité. Et tant que ces capacités-là ne sont pas renforcées, il est difficile d'avoir une mobilisation des ressources domestiques, c'est-à-dire un revenu national qui augmente et un niveau de pression fiscale adéquat. Vous savez que l'Afrique, par exemple, est la région du monde qui a la plus faible pression fiscale, qui oscille entre 12 et 19% selon les régions, alors que toutes les régions sont bien au-delà de 20 et de 30. Donc il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question de capacité.